Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et Robert Sigal nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Robert.
Bonsoir monsieur.
Vous êtes directeur général de l'hôpital américain de Paris et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, un hôpital comme le vôtre, qui est évidemment... qui jouit d'une belle réputation, est plongé dans la technologie. Je m'intéressais un petit peu à ce que vous faites, c'est dingue. Vous gravitez autour de start-up, vous proposez des systèmes hyper innovants pour les chirurgiens, pour qu'ils puissent prendre facilement des rendez-vous et caler des interventions chirurgicales. J'ai l'impression, alors on va parler après de ce que vous allez nous présenter maintenant et de ce jumeau de santé, mais d'une manière générale, la technologie c'est quelque chose qui est au cœur de votre, comment dirais-je, au cœur du réacteur de votre hôpital ?
Oui absolument, donc l'hôpital américain, on connaît, c'est un hôpital privé à but non lucratif, qui est numéro un en termes de satisfaction patient, précisément parce que nous nous efforçons depuis toujours d'apporter le meilleur de la médecine française et américaine d'ailleurs à nos patients. Et la médecine vit une époque absolument formidable de révolution biologique, de révolution technologique, et l'hôpital américain se doit naturellement d'être au rendez-vous.
Avec des réglementations quand même qui sont dures, hein, c'est-à-dire que vous pouvez pas faire n'importe quoi, hein, il y a des certifications qui doivent être mises en place, ça prend des années, c'est parfois un frein, vous imaginez, à l'innovation technologique.
Non, c'est d'abord une garantie de sécurité pour les patients. Par exemple, en matière de sécurité des soins, nous sommes certifiés à la fois par la Haute Autorité de Santé, comme tous les hôpitaux français, mais on est certifiés également par la Joint Commission américaine, oui, qui surveille tous les hôpitaux américains, plus le nôtre, et c'est une garantie qu'on est dans les clous de la sécurité. Donc non, il y a des règles, mais c'est normal pour protéger la santé des gens.
Les start-up, j'en parlais tout à l'heure, vous lancez même des prix prévention innovation. Je crois que vous avez lancé ça l'année dernière.
Absolument. Donc on a lancé un prix uniquement sur prévention et innovation, et on s'attendait à avoir 15 start-up, on en a eu 74. Et ça, ça a été extraordinaire. Ça prouve deux choses. Ça prouve premièrement que la France est un terreau de start-up extraordinaire, et ça faisait vraiment plaisir de voir ces jeunes pousses avec des gens dynamiques. Et puis bon, c'est probablement l'image de l'hôpital américain qui attire aussi.
Et après, qu'est-ce que vous faites de ces start-up ? Parce que j'imagine qu'il y a eu des élus. Vous les intégrez dans le fonctionnement de l'hôpital, vous leur montrez un peu comment ça se passe. Parce que j'imagine qu'il y a des récompenses. Comment ça se passe ?
Alors c'est exactement ça. Il y avait une petite récompense financière, mais c'était même pas tellement ça. Alors, qui était en jeu ? Ce qui était en jeu, c'est que pour les start-up, elles veulent avoir un terrain de jeu. Et donc, on les accompagne, on les met un peu en couveuse, et on regarde avec elles de quelle façon on va le faire pour que ça bénéficie ou pas à nos patients, donc on est dans ces phases.
Comment vous regardez les autres hôpitaux ? Est-ce que ils essaient de s'inspirer de ce que vous faites, ou est-ce que parfois ça peut être l'inverse ? Vous regardez ce que font les autres hôpitaux pour vous inspirer de ce qu'ils font ?
Alors oui, d'abord il faut toujours regarder les autres. C'est fait partie de la vie de regarder ce que les autres font bien, et les autres nous regardent. Écoutez, là il y a 3 jours s'est tenu un colloque à l'hôpital américain avec nos partenaires américains de l'université de Columbia, de l'université de Cornell, et on a d'excellentes relations avec eux. Ils nous regardent, je crois, assez favorablement, d'où ces collaborations qu'on a avec eux. Et en France, on a également des collaborations avec d'autres hôpitaux qui sont inspirantes pour eux et pour nous.
Alors, vous êtes là ce soir pour nous parler d'une innovation qui est très intéressante. On parle beaucoup de jumeaux numériques dans l'industrie, mais aussi dans la santé. Et vous êtes en train de mettre ça en place pour des patients. Si j'ai bien compris, hein, mais vous allez me couper si je dis une bêtise, c'est que vous allez récupérer un maximum de données du patient suite à des examens et créer un jumeau numérique que vous allez garder, en quelque sorte, c'est ça ?
Absolument. Alors, on l'a fait dans un domaine, l'hôpital américain fait toutes les spécialités médicales, la cardiologie, etc. Il y a un domaine où l'hôpital se distingue depuis toujours, c'est la médecine préventive. On a ouvert un check-up qui fait des examens il y a 33 ans. On était très, très en avance. L'année dernière, on a fait 8000 bilans. Sur ces 8000 bilans, il y a des bilans généraux, les bilans cardiologiques, le bilan gynécologique, etc., etc. Donc, on a assez naturellement décidé de faire porter l'effort dans ce domaine de la médecine préventive. De quoi on parle ? Quand quelqu'un fait un examen chez nous actuellement, on va lui faire toute une série de tests, et puis évidemment, on va être capable de lui dire éventuellement, il faut que vous améliorez. Si vous avez par exemple trop de cholestérol, on va lui dire, vous allez faire.
Mais ça, tout le monde peut le faire.
Voilà, tout le monde peut le faire. Alors, où est-ce qu'on va plus loin ? On va plus loin parce qu'on est maintenant dans une démarche vraiment, je n'emploie pas souvent ce mot, mais qui est révolutionnaire, et qui consiste effectivement à créer une réplique virtuelle d'un patient, de quelqu'un qui passe. Qu'est-ce qu'on fait ? On va accumuler des données de ce patient, son histoire, celle de ses parents, son histoire, l'examen clinique, des données d'imagerie, des données de biologie, des données génétiques, et on va reproduire son jumeau, littéralement.
Vous allez agréger toutes ces données ?
Oui.
D'accord. C'est, ouais. Mais alors, c'est une question toute bête, mais avant, ça ne se faisait pas ?
Non, parce que là, on bénéficie à plein de la révolution technologique et de l'IA. Ce qui fait la force de ça, c'est que non seulement ce seront... on va prendre des données de ce malade-là, de monsieur ou madame Dupont qui viennent, mais des milliers, des millions de données qu'on a, et là, on bénéficie de toute la puissance du deep tech et de l'IA et de la puissance numérique qu'on a, et à ce moment-là, on peut créer, à partir de là, un jumeau de cette personne, et je reviens à cette personne qui a du cholestérol, on peut lui dire, bah, écoutez, chère madame ou cher monsieur, en fonction de vos antécédents, voilà littéralement votre jumeau, dans 3 ans, voilà ce que vous risquez, dans 8 ans, dans 10 ans, voilà ce que vous risquez, et sauf si, et c'est évidemment l'intérêt de faire ça, si on oui. fait attention et qu'à ce moment-là, on prend...
Ou si on entame un traitement.
Un traitement, exemple. Des mesures préventives. Je reprends l'exemple du cholestérol qui, je pense, parle à tout le monde. Bah, écoutez, si vous faites ça, voilà ce que vous risquez, mais si vous arrêtez, les choses se passeront mieux. Pourquoi c'est important ? Parce que la médecine préventive reste compliquée. Les gens trouvent que c'est un peu général. Oui, ok, mais très bien. Mais pour moi, si on commence à montrer à la personne son jumeau, c'est pas quelqu'un... Non, c'est pas... Vous, voilà ce que vous risquez. Tout à coup, ça parle beaucoup plus. En tout cas, c'est là-dessus qu'on travaille, en se disant qu'en personnalisant, en quelque sorte, on aura un impact de santé plus important.
Vous en êtes où aujourd'hui ? Est-ce que tout ça, c'est encore du, comment dirais-je, de l'entraînement ? Vous êtes en rodage ? Ou est-ce que véritablement, vous suivez des patients avec leurs jumeaux numériques pour prédire, en fait, certaines pathologies qui pourraient se développer dans les années qui viennent ?
Alors, l'hôpital va ouvrir un nouveau bâtiment magnifique l'année prochaine, dans un an exactement. On va tripler la surface du check-up center. On s'apprête à passer de 8000 bilans à 10000, 12000. Et dans ce domaine-là, on a commencé à travailler sur la partie scientifique avec des start-up, avec des grosses industries pour être en mesure, dans les mois qui viennent, de commencer les premiers essais, si je puis dire, là-dessus. Donc ça n'est pas encore actuellement opérationnel, ça le sera dans les mois à venir.
Vous vous êtes inspiré d'un modèle qui existe déjà aux États-Unis ou en France pour créer ce jumeau numérique ?
Alors, des jumeaux numériques existent déjà dans l'industrie. La personne qui est responsable de ce programme à l'hôpital américain s'appelle le professeur Benoît Galix, je voudrais lui rendre hommage. Il est responsable d'un autre gros programme financé par le gouvernement français qui s'appelle MediTwin. Il y a des jumeaux numériques qui existent maintenant, par exemple sur le cancer du côlon ou sur le cœur. Nous, on a un jumeau de prévention. Donc oui, il y a des jumeaux. Maintenant, dans ce domaine-là spécifique de la prévention, à notre connaissance et à la connaissance de nos partenaires américains, c'est unique ce qu'on fait. Maintenant, si c'est unique, un jour ce sera copié. Mais c'est très bien, c'est parfait.
Oui, très bien. Si ça peut évidemment bien sauver sûr. Des vies, c'est l'idéal. Parfait. Et puis, rappelons-le, c'est la prévention qui est le plus important aujourd'hui. Hein. Oui. Voilà, si on arrive à détecter certaines pathologies, même en signaux faibles, avant que ça devienne grave, c'est
alors,
l'idéal.
La prévention, d'ailleurs, en France et dans beaucoup de pays, reste un peu le parent pauvre. On dépense moins de 2% de l'argent de l'assurance maladie sur la prévention. Et là, il y a quelque chose qui est un peu dommage. Pourquoi attendre que d'être malade pour le faire ? Mais quand on y pense, il y a quasiment un aspect culturel et sociologique, qu'on regarde, un médecin, vous allez chez le médecin quand vous êtes malade. Naturellement, vous n'allez pas chez le médecin quand ça va bien.
C'est une erreur.
Et donc, il y a un changement littéralement d'état d'esprit qu'il faut faire. Et c'est pour ça qu'aussi dans nos programmes, c'est pas seulement de la technique qu'on regarde. On regarde aussi l'accompagnement en travaillant avec d'autres catégories de gens, des sociologues, pour dire qu'est-ce qu'on fait pour que l'acceptabilité par le patient soit meilleure.
Est-ce que vous pensez qu'il faudrait généraliser les check-up, en fait ? Il y a même des start-up qui se lancent. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y en a une qui se lance, qui est très haut de gamme et qui vous fait des examens assez poussés pour créer une espèce de jumeau numérique et pour vous dire, bah, attention, des parents qui ont eu certains problèmes de santé, etc., vous devez surveiller, le foie ou les intestins, des choses comme ça.
Mais absolument. Écoutez, absolument. Là-dessus, modestement, c'est aussi la raison d'être de l'hôpital américain, d'être un peu en avance, mais on espère évidemment que ce qu'on fait sera copié, enfin en tout cas sera répliqué, et on espère bien sûr que ces politiques de prévention s'étendra pour le bénéfice de plus de citoyens en France et dans le monde. Au passage, l'hôpital américain a 30% de patients internationaux, et donc on a aussi maintenant dans notre check-up un grand nombre de patients qui viennent du monde entier se faire suivre, et c'est parfait. Et donc oui, que ça s'étende est une très bonne chose, il n'y a pas de doute.
Autre volet technologique qui est passionnant, c'est la robotique dans la chirurgie. J'imagine que c'est un sujet que oui. vous suivez. Est-ce que vous avez des chirurgiens qui, aujourd'hui, utilisent des robots
Absolument.
Au quotidien ?
On a des chirurgiens qui utilisent des robots au quotidien. C'est devenu quasiment de la routine. Je ne sais pas si c'est la marque avec laquelle on travaille, mais c'est des robots très connus. Et il y a beaucoup de nouvelles offres qui se développent.
D'accord.
Et c'est normal parce que ça améliore la précision du geste, ça améliore l'éducation des jeunes là-dessus. Donc il n'y a aucun doute que c'est quelque chose d'important actuellement. Aucun doute. Ce qui s'ouvre de plus en plus, c'est qu'on a commencé sur certains types de chirurgie, dans certains domaines, et ça s'étend de proche en proche, et c'est formidable. Il y a une vraie révolution en médecine, et c'est formidable.
Je vous présente Moon Surgical, qui est justement sur ce sujet. Vous pouvez peut-être rester avec nous. Hein.
On très volontiers.
Encore pour 8 minutes, peut-être.
Très volontiers.
Vous aurez des questions à poser à notre invité, Anne Audois, qui est avec nous. Bonsoir, Anne.
Bonsoir, François.
Vous êtes la PDG donc, de Moon Surgical. Alors, on vous avait déjà reçu il y a quelques temps de cela. Il y a juste un an, et ça avance.
Hein.
Vous êtes un spécialiste de la robotique dans le domaine de la chirurgie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites déjà ?
Avec plaisir. Donc, nous sommes la société Moon Surgical, une société française basée à Paris qui développe un robot qui s'appelle le robot Maestro, qui est un robot d'assistance aux chirurgiens pour la chirurgie laparoscopique, donc la chirurgie minimalement invasive des tissus mous.
C'est-à-dire que au lieu d'ouvrir comme ça, vous faites deux petits trous ou trois petits trous, enfin je ne sais pas combien, et vous allez...
Alors ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, effectivement. Ça s'appelle la laparoscopie ou la célioscopie. C'est le standard of care, donc vraiment la façon de procéder sur la majorité des interventions.
Qui permet des rétablissements plus rapides, etc., etc.
Exactement. Enfin, voilà, qui permet effectivement de limiter l'invasivité du geste et du coup de favoriser la récupération.
Et vous, votre spécificité là-dedans ?
Nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient assister le chirurgien pendant ses gestes. Ces gestes, effectivement, ont été une révolution pour les patients et ont vraiment significativement amélioré la qualité des interventions, réduit la récupération, comme vous l'avez dit. Mais ils ont, dans une certaine mesure, complexifié ce qu'il y a à faire dans un bloc opératoire, puisque le chirurgien a besoin d'aide pour contrôler ce qu'il voit à l'intérieur du corps humain et pour contrôler la manière dont il peut accéder au tissu, puisque auparavant dans une chirurgie ouverte, on voyait et puis on pouvait pousser les tissus et puis on pouvait accéder de manière relativement aisée à sa cible.
Donc dans là, il y a des caméras, j'imagine.
Exactement, il y a une caméra qui va à l'intérieur de l'abdomen et qui doit donc être manœuvrée de sorte à ce que le chirurgien puisse voir ce qu'il a besoin de voir à chaque instant. Et de la même manière, il y a une pince qui généralement vient soulever le foie ou écarter certains organes de sorte à ce que le chirurgien puisse accéder, disséquer l'organe qui fait l'objet de l'intervention.
Alors votre robot star, c'est Maestro.
Exactement.
Que vous allez, alors et c'est ça l'actualité, déployer aux États-Unis et en Europe. Vous allez commencer une lente commercialisation, hein, commercialisation limitée, mais c'est déjà un point d'étape très important. C'est ça donc,
Absolument.
Votre actualité ?
L'actualité, c'est qu'on a reçu la semaine dernière effectivement l'autorisation de la FDA, donc la Food and Drug Administration aux États-Unis, pour commercialiser nos dispositifs. On avait reçu il y a quelques mois le marquage CE, qui est l'équivalent en Europe, et on est dans une phase pilote, donc effectivement lancement commercial contrôlé sur un nombre de sites choisis avec lesquels on travaille. En France, on travaille notamment avec le groupement hospitalier privé Elsan. On travaille avec quelques sites en France et on a traité près de 300 patients aujourd'hui en Europe, en France et en Belgique. Et on va pouvoir faire la même chose aux États-Unis dans les prochains mois avant un déploiement commercial de plus grande ampleur l'année prochaine.
Concrètement, expliquez-nous pourquoi un chirurgien aurait intérêt à utiliser votre solution, en fait ? Ça lui permet quoi ? Ça lui permet de gagner du temps, d'être plus concentré sur certains gestes ? C'est quoi le
Alors, chaque robot a un peu sa spécificité et sa proposition de valeur. Dans notre cas, effectivement, on vient assister le chirurgien, ce qui est généralement fait par un assistant chirurgical, un aide opératoire. Ce sont des ressources qui manquent aujourd'hui dans les blocs opératoires. Il y a énormément de ressources aujourd'hui qui sont difficiles à trouver et à fidéliser dans les hôpitaux. Donc ça, c'est une partie, effectivement, du problème qu'on vient résoudre.
Donc ça permet d'avoir avoir moins d'assistants humains,
c'est ça ? Ça permet effectivement de partager un assistant sur deux salles, comme vous pouvez le faire sur les anesthésistes. D'accord. Ça permet effectivement plus d'agilité dans la manière dont vous utilisez votre staff dans la salle d'op. Ça permet de réduire la durée opératoire et de réduire la variabilité des opérations. Donc, c'est des opérations chirurgicales qui sont plus reproductibles, qui sont du coup mieux contrôlées par les chirurgiens, ce qui permet aussi de les faire passer de manière plus aisée dans un environnement ambulatoire où les patients restent moins longtemps à l'hôpital.
Robert Sigal, on voit que les robots...
Oui, alors moi, vraiment, moi je me réjouis. Il se trouve que sur le domaine des robots, il y a une société qui est une société américaine qui a une position quasi hégémonique dans le monde. Et moi, franchement, je me réjouis absolument de voir qu'il y a la concurrence qui arrive. Je trouve ça formidable. D'abord, ça va peut-être faire baisser les prix, ça sera formidable. Et ensuite, c'est très bien. La question qui va se poser, c'est comment vous vous différenciez effectivement de concurrents qui, eux, ont des positions très stables. Et dernier point, je me réjouis absolument que ce soit développé en France, parce que pour les hôpitaux à vocation universitaire comme l'hôpital américain, avoir des partenaires locaux français, c'est essentiel. Donc vraiment bravo. Enfin, moi je trouve
merci.
Ça formidable.
Et venez c'est l'objet des prochains mois. On a des discussions avec vos chirurgiens, donc on viendra
venez
vous voir.
Venez-nous parce que vous pouvez avoir un prochain client, visiblement.
C'est exactement l'objet des prochains mois, c'est justement de générer les données, l'évidence clinique qui permet ensuite de justifier en fait d'un investissement. Et vous le disiez, l'accès à ces robots est onéreux. Et parmi effectivement les choses qu'on propose, il y a la mise en place de nouveaux business models qui permettent que ce soit aussi beaucoup plus démocratique.
Très bien. Ce robot est déjà utilisé en France ?
Oui, ce robot est utilisé en France dans deux sites, à Besançon et à Nice.
D'accord.
Comme je vous l'ai dit, on a traité aujourd'hui près de 300 patients.
Très bien. On parle beaucoup d'intelligence artificielle dans tous les domaines, dans tous les secteurs. C'est quasiment le sujet d'actualité au quotidien dans Tech&Co. Est-ce que l'IA est en train de révolutionner aussi la robotique dans le monde de la chirurgie, à votre avis ?
Absolument. Donc nous, on l'intègre depuis le démarrage. On travaille depuis plus de 3 ans avec un partenaire technique qui s'appelle NVIDIA, qui est assez connu dans le domaine, qui est devenu un investisseur
ils
de la société
NVIDIA,
l'année
c'est
dernière.
Fou, hein.
Ils ont effectivement une grosse verticale sur la santé parce que leur technologie peut permettre le déploiement de fonctionnalités en temps réel pendant la chirurgie.
Ça s'appelle NVIDIA Holoscan, je crois.
Exactement. Ça donc ça, c'est un de leurs processeurs qu'on a embarqué dans notre robot. Et le premier cas d'usage qui est déjà dans notre produit aujourd'hui, qui est utilisé en Europe, c'est justement le fait d'automatiser le positionnement de la caméra, de sorte à ce que celle-ci suive l'instrument décidé par le chirurgien. Donc un instrument actif. Donc le chirurgien n'a qu'à dire, ok, suis mon crochet en l'occurrence, et la caméra va, pendant la durée de l'opération, manœuvrer
L'assister intelligemment.
Exactement, sans qu'il ait besoin manuellement de la repositionner. Donc ce qui permet de libérer un bras.
Robert Sigal.
En matière d'IA, je voudrais vous donner 2 exemples pour l'hôpital américain. L'année dernière, on a eu 22 000 examens d'imagerie. La mammographie, toutes les images sont lues en intelligence artificielle. Il y a toujours un radiologue derrière qui vient lire les scanners, etc. C'est une firme française, c'est une start-up française, Incepto. En biologie, on a un partenariat avec Kiro, qui fait aussi que tous les examens de biologie. Donc, toute la médecine est maintenant là.
Et
c'est un moment, mais vraiment béni. C'est un moment extraordinaire de vivre ça en médecine actuellement. Ouais. Dans tous les domaines, c'est incroyable.
Et les perspectives de recherche en cancérologie visiblement vont être totalement.
Vous savez, il y a une petite phrase qu'on dit chez les médecins, c'est que on ne sait pas si l'IA va remplacer les médecins, mais les médecins avec IA remplaceront les médecins sans IA. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Ceux qui seront là sans IA, ils ne seront plus là.
Merci beaucoup à tous les deux et encore bravo pour le succès de Moon Surgical. Merci à Anne-Audouard,
merci.
Vous en êtes la PDG. Et merci beaucoup à Robert Sigal, directeur général de l'hôpital américain de Paris, qui, entraîne l'intelligence artificielle et la technologie dans pas mal de niveaux. Et c'est avec ce sujet passionnant que se termine ce Tech & Co ce soir. Merci de nous avoir suivis.